Vous êtes sur RTL.
Oui.
RTL Midi.
Le 12-30 avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. En ce mardi 20 avril, l'enquête sur l'enlèvement de Mia prend une tournure internationale. Un mandat d'arrêt vient d'être lancé à l'encontre d'un Français qui vit en Malaisie. L'émotion et la colère, comme prévu, les policiers manifestent en cette mi-journée après les acquittements dans le procès de Viry-Châtillon. La mixité sociale s'est invitée lors du déplacement d'Emmanuel Macron hier sur le thème de la sécurité. Alors qu'y a-t-il derrière ce terme en France en 2021 ? Nous serons avec le sociologue Jean Viard dans quelques minutes. Élargir la vaccination aux métiers de deuxième ligne. Les partenaires sociaux y travaillent et sont en train de finaliser une liste des professions prioritaires. Pendant ce temps, la diminution des cas de contamination reste encore fragile chez nous. Alors, faut-il, oui ou non, rester sur le même calendrier d'ouverture des écoles, notamment ? Autre invité de ce journal, l'épidémiologiste Antoine Flahaut. Et notre coup de cœur, il n'y a pas que l'économie qui est circulaire, la solidarité aussi. Vous entendrez un couple de boulangers qui a pu ouvrir son commerce grâce aux habitants et qui redistribue toute cette générosité. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Agnès.
On reste sur un temps variable.
Oui, entre nuages et éclaircies au nord avec une petite averse possible, mais vraiment de manière très localisée. Ça reste bien voilé en revanche sur la façade atlantique et jusqu'à la Méditerranée. Des averses se déclenchent en montagne, sur les Alpes et au pied des Pyrénées, de la neige dès 1600 mètres. Et puis des averses plus fréquentes sur le massif central, mais les températures sont douces et ça fait du bien. 14 degrés prévus à Cherbourg, 16 à Strasbourg et Lille, 18 à Paris, Rennes et Cognac, 19 degrés à Lyon et Toulouse et Perpignan.
La question du jour, y a-t-il encore de la mixité sociale dans les quartiers ? Vous dites oui à 16%, non à 74%. On attend vos appels au 3210. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Agnès, avec en corollaire à cette question, y a-t-il encore des gens qui portent le prénom Pierre dans les quartiers ? Y a-t-il de la mixité sociale ? Mais on pourrait également dire de la mixité culturelle. Quelle est la réalité au quotidien ? Vous pourrez témoigner. Troisième nuit de tension à Tourcoing dans le nord, des échauffourées entre des jeunes et la police. La police justement avec les syndicats de policiers qui ont appelé les fonctionnaires à se rassembler à l'heure du déjeuner devant les tribunaux judiciaires partout en France. L'épidémie qui baisse selon Olivier Véran, donc on pourra intervenir sur ce sujet. Rendez-vous entre 13h et 14h30.
À tout à l'heure.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Il aurait piloté l'enlèvement de la petite Mia depuis la Malaisie. Un mandat d'arrêt international est lancé contre Rémi Daillé, mis en cause par les cinq hommes poursuivis pour le kidnapping de la fillette il y a une semaine, tout juste. L'homme qui est désormais dans le collimateur de la justice, Guillaume Chiez, est un complotiste extrêmement suivi sur les réseaux sociaux.
Oui, cet homme de 54 ans a d'abord connu une brève carrière politique jusqu'à son exclusion du Modem en 2010. De cette expérience, il a gardé la verve, le bagou qu'il a mis au service d'une autre cause, des vidéos relant complotistes, parfois xénophobes et surtout anti-système, comme celle-ci par exemple, où il appelle à un soulèvement pacifiste.
Moi je ne suis que le pasteur qui se porte au devant des loups. Partout où vous regardez, les mauvais ont été promus et les bons rabaissés. C'est un système généralisé de la subversion. Ce système fabrique de la haine, du crime, de l'injustice de manière industrielle. Ce que je vous amène, c'est l'extinction du système.
Et ces vidéos fleurissent sur la toile, font des dizaines de milliers de vues. Il y parle notamment d'écoles à la maison, d'enfants qu'il faut soustraire au système. Des thèses auxquelles la mère de Mia semble-t-il adhérer. Ce matin, le procureur de Nancy a fait savoir que Rémi Daillé était considéré comme le principal organisateur de l'enlèvement de la fillette. C'est notamment lui qui a donné l'adresse de la grand-mère maternelle au kidnappeur. Désormais, les enquêteurs français compte sur la collaboration de la Malaisie où vit Rémi Daillé pour parvenir à l'interroger sur son rôle exact dans l'enlèvement de Mia.
Merci Guillaume Chiez du service police-justice de RTL. Sachez que la maman de Mia, elle, attend son extradition depuis une prison suisse. La fillette de 8 ans a été remise à sa grand-mère hier, dans un endroit évidemment tenu secret. Troisième nuit de tension à Tourcoing, dans le nord. Des jets de mortiers d'artifice ont été envoyés sur les forces de l'ordre. Quelques échauffourées ont éclaté. En tout, 11 personnes ont été interpellées. C'est contre ce genre de violence que les policiers manifestent aujourd'hui. Ils demandent beaucoup plus de fermeté de la part de la justice. notamment après le verdict de l'affaire de Viry-Châtillon qui a été rendu ce week-end. Écoutez, Rocco Contanto, porte-parole Île-de-France d'unité SGP Police, il participe actuellement au rassemblement statique devant le palais de justice de Paris.
C'est pour montrer notre solidarité envers ses collègues qui n'ont pas obtenu réparation à hauteur des blessures qu'ils ont eues. On ne remet pas en cause ce jugement, simplement qu'on fait part de notre incompréhension, alors qu'en première instance, nous avons eu des condamnations, et en deuxième instance, ces condamnations ont été moindres avec plus de personnes relaxées. Ce que nous demandons, nous, c'est des peines minimum lorsqu'on agresse des policiers. Voilà ce que nous demandons aussi. Un policier, c'est un fonctionnaire d'État, dépositaire de l'autorité publique, et quand on agresse un policier, c'est une circonstance aggravante. Non seulement des peines, mais des peines immédiates. Parce que si on attaque un policier et que la personne est condamnée 8 et 10 mois après, ça lui donnera un sentiment d'impunité. Nous réclamons des juridictions spécialisées quand les collègues sont victimes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que nous sommes les premières victimes de l'augmentation de ces agressions depuis toutes ces années.
Des propos recueillis par Nicolas Burnand pour RTL. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a expliqué qu'il n'était pas favorable à des manifestations devant les institutions tout en soutenant les forces de l'ordre. Il recevra d'ailleurs samedi les policiers grièvement brûlés en 2016 à Viry-Châtillon. Le patron de la place Beauvau était ce matin l'invité de RTL. Il est également revenu sur cette séquence hier à Montpellier lors du déplacement d'Emmanuel Macron. Une habitante du quartier de la Mosson a expliqué au chef de l'État que son fils lui avait demandé si le prénom Pierre existait vraiment ou si ce n'était que dans les livres. Une question qui a interpellé le président de la République, tout comme Gérald Darmanin d'ailleurs. Le ministre de l'Intérieur estime que la mixité est un objectif indispensable, mais que cela demande beaucoup de temps.
Vous ne refaites pas le quartier de la Paillade à Montpellier ou le quartier de la Bourgogne à Tourcoing en 3 ans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi, j'ai confiance dans la République lorsque Neyma, qui est née au Maroc, elle l'a dit elle-même, qui est arrivée à l'âge de 7 ans en France, dit « Moi, je veux de la mixité sociale dans mon quartier. Je veux des policiers.
Mais il n'y en a pas.
Je veux lutter contre l'islamisme. » Bien sûr, c'est pour ça que dans le quartier de la Paillade, le maire de Montpellier vous dirait que, indépendamment de lutter contre les trafics de stupéfiants, nous refaisons tout dans ce quartier. Et notamment, on évite de faire 90% de logements sociaux dans un immeuble. Ça ne peut pas marcher. Et puis, deuxièmement, moi, je constate que cela fait 30 ou 40 ans que cela existe.
Gérald Darmanin qui répondait à Benjamin Sportouche sur RTL. Alors la question du jour, y a-t-il de la mixité sociale dans les quartiers ? Pascal Praud, réalité ou pas, vous en parlerez avec vos auditeurs.
Rien ne renseigne plus la condition sociale à laquelle vous appartenez que l'endroit où vous vivez. La raison, évidemment, elle est d'abord financière. Donc cette mixité sociale, elle n'existe pas ou elle n'existe plus. Mais aujourd'hui, s'ajoute une absence de mixité culturelle. Et c'est la phrase de cette jeune Française hier qui interpelle le président de la République et qui dit « Mon fils se demande si le prénom Pierre est uniquement dans les livres. » Et de la même manière, je pourrais dire qu'aujourd'hui, les juifs français ne veulent plus vivre avec les juifs, avec les musulmans français. Ils ne veulent plus rester dans les mêmes quartiers. Donc il y a une absence de mixité culturelle. Donc, absence de mixité sociale, absence de mixité culturelle en France, le vivre ensemble devient compliqué.
Merci Pascal, à tout à l'heure. Nous sommes en ligne avec le sociologue Jean Viard. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Tout d'abord, selon vous, est-ce que la mixité sociale se mesure au prénom que l'on donne à nos enfants ?
Honnêtement, ça peut être un indicateur. Vous voyez, moi quand j'étais enfant, je n'ai jamais connu un enfant qui s'appelait Mohamed dans ma classe. Parce que les enfants de l'immigration n'allaient ni au collège ni au lycée. Donc c'est clair, ça c'est vrai. Et puis après, c'est vrai qu'effectivement, il y a un développement, une concentration des enfants d'immigrés dans certains territoires, notamment parce que les autres sont partis. Si vous voulez, dans la concentration, il y a toujours ceux qui sont là. Une bonne partie des gens qui étaient là il y a une génération sont partis dans les lotissements périurbains. Disons, on peut faire carte postale, on les a retrouvés dans les gilets jaunes. Et donc, du coup, certains quartiers se concentrent et l'État n'a pas mené de politique assez dynamique pour effectivement créer de la citoyenneté.
Et justement, alors, est-ce que l'État peut influer sur la mixité sociale concrètement ? De quelle façon cela se fait-il ?
Mais que les gens aient envie de vivre ensemble parce qu'ils partagent un certain nombre de valeurs, ça n'a rien de scandaleux. Les Bretons sont avec des Bretons, etc., il faut faire attention. La mixité ne s'impose pas. La question, c'est comment la société, si vous voulez, quand on demande aux gens, c'est quoi qui symbolise la République ? Ils vous disent d'abord l'école, ensuite la mairie, et ensuite les entreprises. Parce que pour eux, c'est le lieu du travail, de l'organisation sociale. Ben, dans des quartiers où il n'y a pas d'entreprise, pas d'organisation sociale, heureusement qu'on a doublé les CE1 et les CE2, ça c'est une très bonne politique, mais c'est une petite chose. Il faut aller beaucoup plus loin, il faut vraiment une réforme de la citoyenneté, il faut multiplier les communes dans les villes pour que, si vous voulez, ces gens soient citoyens, alors que là, en gros, ils sont dans la périphérie de certaines villes.
Il faut les remettre au centre du jeu.
Oui, il faut considérer qu'ils habitent des faubourgs, dont, si vous voulez, la plupart des gens, au bout d'une génération, vont partir. Ils vont se dissimuler dans la société, se diffuser, être médecin, j'en sais rien, moi, boulanger. Regardez les Tunisiens, la majorité des boulangers sont tunisiens. Donc, il faut les aider à se diffuser dans la société. C'est des lieux du passage. Et comme, effectivement, on ne s'en est plus suffisamment occupé, et comme il y a une contre-attaque très dure de mouvements salafistes du Qatar ou de l'Arabie saoudite, qui a aidé à construire des réseaux autour d'un islam radical, ben vous avez d'un côté des acteurs dynamiques et, on va dire, séparatistes, et de l'autre côté, une faiblesse des politiques publiques. Ben, on en est exactement au milieu de ce chemin.
On entend souvent, Jean Viard, que la mixité sociale est une richesse. Est-ce que vous avez pu constater des périodes durant laquelle elle a été mise en avant, favorisée ?
Ben, si vous voulez, il y a la mixité sociale et la mixité générationnelle. C'est deux choses très importantes. Parce que souvent, si vous voulez, dans les lotissements, il n'y a pas de mixité générationnelle parce que les gens ont tous construit au même moment. Là, la question, c'est comment on multiplie, on densifie pour installer des jeunes. Ça, c'est une question. Après, de l'autre côté, la vérité, c'est que dans beaucoup de villes, il y a des phénomènes de segmentation. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a partout des minorités. Vous voyez, moi qui suis marseillais, je peux vous dire que par exemple, à Beaumont, qui est le quartier des Arméniens, la plupart des habitants ne sont pas arméniens. Et il y a des Arméniens dans toute la ville. Mais pour les Arméniens, c'est leur quartier totémique. Les Italiens, c'est pareil avec Nepenthe. Donc un quartier doit être à la fois totémique pour une population, parce qu'il y a un centre culturel, pour des tas de raisons. Et puis en même temps, il faut qu'effectivement, il y ait un minimum de métissage. Et ça, c'est l'art des politiques publiques. Mais après, qu'il y ait des quartiers symboliques des communautés. Vous savez, à Marseille, pour continuer, il y aurait une grande mosquée. Ben, ça construirait un quartier musulman légitime et honorable. Mais il n'y en a pas. Donc si vous voulez, si on ne construit pas les lieux symboliques, par exemple, de la nouvelle grande religion française qui est l'islam, ben, effectivement, ce sont les minorités actives qui occupent le terrain.
Merci beaucoup, Jean Viard, d'avoir été l'invité de RTL Midi. Une pause, et dans un instant, les éboueurs, les conducteurs de bus, mais aussi les caissières, les métiers prioritaires pour la vaccination, sont de plus en plus nombreux.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon.
Il est midi 45 sur RTL Midi. On revient sur cette information que l'on a appris il y a quelques minutes à peine. La mort du président tchadien, Idriss Déby. Il était au pouvoir depuis 30 ans, Christophe Decroix.
Oui, plus de 30 ans même. C'est l'un des plus anciens chefs d'État au monde. Il avait pris le pouvoir contre Hissène Habré dans les années 90. Et c'était l'un des piliers du G5 Sahel, auquel participe évidemment la France dans la lutte contre les islamistes. L'annonce a été faite il y a quelques instants sur la radio-télévision tchadienne.
C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, chef de l'État. Chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille.
Alors d'après ce qu'on sait actuellement, Idriss Déby serait mort effectivement sur le champ de bataille. Il y avait une rébellion qui venait du nord du pays. Ce n'est pas la première rébellion à laquelle il faisait face. Il faut dire qu'il était depuis 6 mandats, que ses mandats étaient contestés, qu'il y avait un côté très autoritaire dans le pouvoir d'Idriss Déby. Il y avait une rébellion donc qui était partie du nord dernièrement. Des rébellions qui avaient déjà été d'ailleurs chassées avec l'aide de la France. Mais cette fois-ci, Idriss Déby était parti au combat lui-même. Il a été donc blessé. Il est mort des suites de ses blessures. C'est un homme qui avait été formé par l'armée française, qui était, je l'ai dit, souvent soutenu. Et c'est surtout un problème aujourd'hui pour la France dans le cadre du G5 Sahel et de la lutte contre les islamistes, puisque le Tchad est vraiment l'un des piliers. L'armée tchadienne a des soldats qui sont connus pour leurs valeurs et ça va poser sans doute des problèmes nouveaux dans le cadre de ce G5. Et
nous reviendrons évidemment sur la mort du président tchadien Idriss Déby Itno. Il était au pouvoir, donc on le disait, depuis 30 ans, plus de 30 ans.
Il venait tout juste d'être élu.
Merci beaucoup Christophe Decroix, chef du service étranger de RTL. Retour en France avec les écoles qui devraient bien rouvrir lundi prochain. Le calendrier reste le même. C'est Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui le dit ce matin à nos confrères du Télégramme de Brest. Selon lui, depuis 5 jours, il y a une décroissance de l'épidémie, mais cette diminution reste fragile. Avec nous, Antoine Flahaut, épidémiologiste, directeur de l'Institut de Santé Globale à Genève. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors tout d'abord, sur les chiffres, effectivement, peut-on dire qu'il y a une baisse des contaminations en France ?
Oui, on peut le dire maintenant. Je crois que assez clairement, dans un grand nombre de régions, on voit une baisse très notable. avec un taux de reproduction qui est passé sous les 0,9. C'est pas probablement encore la baisse va encore s'accentuer. La rapidité de la baisse va encore s'accentuer. On voit ça très clairement en ce moment en Île-de-France, en Bourgogne et Franche-Comté, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine. Les autres régions n'augmentent pas, mais elles ont des plateaux assez élevés. Il y a un seul département qui fait exception, c'est la Creuse, qui est, semble-t-il, soumise à des clusters de nouveaux variants et qui augmente très très nettement. Mais c'est le seul département qui soit un petit peu source d'inquiétude en France métropolitaine aujourd'hui.
Une baisse des contaminations, certes, même si elle est fragile, mais pour l'instant, aucun impact sur les services de réanimation. Comment cela se fait-il ?
Alors, il y a toujours, entre la baisse des contaminations les hospitalisations, puis après les hospitalisations en soins intensifs et les décès, un décalage qui peut être de plusieurs jours, parfois même de jusqu'à deux semaines. Donc, c'est pas totalement étonnant, mais on voit quand même dès à présent, y compris sur le territoire national, aussi un plateau et même peut-être une petite diminution de la mortalité dans les jours qui vont venir en France.
Antoine Flahaut, restez sur le calendrier de réouverture des écoles lundi prochain. Est-ce, selon vous, une bonne idée ?
Alors, c'est toujours un petit peu quand on est en convalescence, qu'on traite bien un malade, il ne faut pas arrêter le traitement. Et je pense qu'aujourd'hui, le traitement n'est pas encore arrivé à son terme. Malheureusement, le gouvernement n'a pas fixé des objectifs de la décrue qu'il souhaitait atteindre. Il les avait fixés pour la deuxième vague en disant qu'il voulait être au-dessous de 5000 cas. Et là, en fait, je pense qu'il faudrait à partir de maintenant au moins trois semaines à ce régime actuel qui permet de contrôler l'épidémie pour arriver au-dessous de 5000 cas en France. Alors peut-être que les faits vont me faire mentir et qu'on aura la chance de voir une décrue plus rapide encore, mais aujourd'hui on est encore un petit peu au-dessous des 30 000 cas par jour. C'est vraiment vraiment trop important et ça permet la circulation des virus, ça permet la circulation et l'émergence des variants, et je pense que ce serait beaucoup trop prématuré aujourd'hui de rouvrir le pays. Je pense que la France est un des pays qui, en ce moment, en Europe, est sur la bonne pente et qu'elle devrait essayer de faire tout pour le conserver.
Donc trois semaines de fermeture concernant les écoles, trois semaines supplémentaires selon vous ?
Alors oui, trois semaines supplémentaires seraient sans doute le régime qui permettrait d'arriver à cette décrue épidémique, qui permettrait ensuite aux autorités de santé de reprendre totalement la main sur toutes les chaînes de transmission. Il faut qu'on sache ce qui se passe dans la Creuse aujourd'hui. Et c'est très difficile quand vous avez 30 000 cas par jour d'aller investiguer toutes ces chaînes de transmission. Or, il faut les investiguer parce qu'il faut les casser complètement, il faut vraiment les démonter de façon à ce qu'elles n'essaiment pas, si vous voulez, sur le territoire. Et cela, ça n'est possible, à mon sens, que quand on a un très faible niveau, une très faible circulation du virus. Au-dessous de 5000 cas, c'est possible. À 30 000, c'est très, très difficile.
Une dernière petite question très rapide, Antoine Flahaut. Avec une montée en puissance de la vaccination, sera-t-on obligé dans les prochaines semaines, les prochains mois, de continuer à respecter les gestes barrières ?
Alors, il y a deux niveaux de réponse. Il y a la réponse qu'on va appeler publique, collective, et puis il y a la réponse privée. Quand vous êtes vacciné et que vos convives sont vaccinés à la maison, ce sont des amis qui sont vaccinés, tout le monde est vacciné, vous pouvez enlever complètement vos gestes barrières, à mon avis, sans aucune crainte particulière, même si des virus peuvent continuer à circuler chez des gens vaccinés, ils sont tous vaccinés, ils ne risquent plus d'avoir des formes graves de la maladie. Si en revanche, dans la sphère privée, vous avez des gens qui sont encore à risque et qui ne sont pas vaccinés, alors peut-être vous allez continuer à faire attention. Dans la sphère publique, c'est un petit peu différent parce qu'on va continuer pendant un certain temps à avoir des gens qui sont vaccinés, d'autres qui ne le sont pas et qui peuvent être encore à risque, voire à qui vous n'avez vraiment pas envie de leur transmettre le virus. Et je pense qu'à cause de cela, dans la sphère publique, on aura sans doute encore un certain temps à conserver ces gestes barrières.
Merci beaucoup Antoine Flahaut d'avoir été l'invité de RTL Midi. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste, directeur de l'Institut de Santé Globale à Genève. Quelle profession prioritaire pour la vaccination ? On en parlait il y a un instant. La liste s'élargit. Une réunion entre le ministère du Travail et les partenaires sociaux vient tout juste de se terminer. Alors rien n'est encore définitif, Anaïs Bouissou, mais vous avez des informations sur ces autres métiers considérés à risque.
Oui, parmi les métiers prioritaires, comptez les conducteurs des transports en commun, les chauffeurs-livreurs, taxis, VTC, les agents d'entretien, les agents de ramassage des déchets. Comptez aussi les caissiers de supermarché, les salariés, les artisans de boulangerie, boucherie, charcuterie, liste à laquelle devraient s'ajouter les salariés des pompes funèbres. En tout, c'est une liste d'une vingtaine de métiers qui est en cours d'élaboration pour des salariés en contact avec le virus, qui croisent du monde et qui doivent se rendre sur leur lieu de travail. Ils auront des créneaux prioritaires à partir de ce week-end, dès lors qu'ils ont plus de 55 ans. Ce sont potentiellement 400 000 personnes qui sont concernées. Pour tous ces salariés, le ministère du Travail incite les employeurs à prévoir des autorisations d'absence pour pouvoir se faire vacciner dans la mesure du possible, même durant le temps de travail.
Merci beaucoup Anaïs Bouissou. On fait une pause et dans un instant, direction Antibes, solidarité, boulanger, générosité.
RTL Midi.
Avec Agnès Bonfillon.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et notre coup de cœur nous amène aujourd'hui à Antibes, sur la Côte d'Azur. Une boulangerie de quartier vient de rouvrir grâce à la mobilisation des habitants. Mickaël Lefebvre.
Bonjour. Un pain aux céréales.
Sous son masque, on devine le large sourire de Chana, car depuis sa réouverture le week-end dernier, sa boulangerie ne désemplit pas.
C'est super, on n'attendait pas à avoir autant de monde et tout le monde s'est mobilisé.
Mobilisé, car fermée depuis un an et demi, la boulangerie des Samboules a pu rouvrir grâce à la générosité des riverains. Manuel Babot est le président du comité de quartier.
Quand on a vu un petit peu les difficultés qu'il y avait à démarrer la boulangerie pour des problèmes matériels, on s'est dit qu'il était grand temps de se mobiliser.
4000 euros ont ainsi été récoltés, permettant de finir les travaux nécessaires à la réouverture de la boutique, située sur une charmante petite place, un lieu de vie essentiel pour les habitants du coin.
Tout le monde est très content. On a pu accourir à droite à gauche pour aller acheter le pain et ça redonne la vie au quartier. Il n'y a rien qu'à voir et il y a du monde partout.
Dans son laboratoire, Radouane, jeune boulanger de 23 ans, met tout son savoir-faire à la préparation de produits uniquement artisanaux et il promet à son tour de retourner toute cette générosité.
Nous, on va s'engager à travailler avec les Restos du Cœur ou le Secours Populaire, de manière à ce que nos invendus soient donnés bénévolement à des personnes en difficulté, étant donné que nous-mêmes avons été en difficulté par rapport aux travaux de la boulangerie.
Un beau geste pour un couple de boulangers au grand cœur.
Mickaël Lefebvre pour RTL en Antibes, dans le quartier des Samboules. On retrouve Pascal Pro avec qui vous allez dialoguer au 32-10 dans quelques minutes. Vous avez évidemment écouté très attentivement ce journal, Pascal.
Bien évidemment, et c'est vrai que cette affaire de mixité sociale ou mixité culturelle est passionnante. Hier, l'échange qu'a cette jeune femme avec le président de la République, qui généralement n'a jamais l'air étonné de ce qu'on lui dit. Mais quand elle lui rapporte que son fils lui a posé la question de savoir si le prénom Pierre était un prénom uniquement dans les livres et que s'il existait toujours, c'est qu'il a 8 ans, son garçon, c'est... Aucun éditorialiste n'aurait pu trouver cela. Aucun journaliste n'aurait pu trouver ça. C'est vraiment le son qui arrive du réel. Et c'est le sens des auditeurs ont la parole d'ailleurs. Et bien c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'être connecté à ce réel et que cette femme était formidable hier.
La météo de ce mardi, si le ciel est variable, Peggy, les températures, eh bien... Douceur pour tout le monde.
Eh oui, ça fait du bien Agnès. 15 degrés au Havre prévu cet après-midi, 16 à Brest et Mulhouse, 17 à Bordeaux et Toulon, 18 degrés à Paris, Tours et Nantes, 19 à Grenoble, Auch et Nîmes. Alors côté ciel, vous l'avez dit, c'est variable, donc entre nuages et éclaircies sur la moitié nord avec, allez, peut-être une petite averse très localisée de manière ponctuelle. Entre la façade atlantique, le sud-ouest et le Languedoc, un ciel toujours voilé. Et puis des averses qui se déclenchent en montagne, au pied des Pyrénées, sur les Alpes, avec de la neige dès 1600 mètres et des averses plus fréquentes sur le massif central.
Merci Peggy.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Est-ce que la mixité sociale existe toujours en France ? Bonjour Charles.
Bonjour, bonjour Pascal.
Quel est votre sentiment ?
Je pense qu'on assiste à une rupture, une forme de rupture culturelle qui mérite qu'on s'interroge.
Le rappel des titres avec Agnès.
Des rassemblements de policiers un peu partout en France. Rassemblements statiques devant les palais de justice. Après le verdict du procès en appel de Viry Châtillon ce week-end, on rappelle sur les 13 accusés, 8 ont été acquittés. Les fonctionnaires grièvement blessés en 2016 seront reçus samedi par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Un complotiste très en vogue sur les réseaux sociaux. Dans l'enquête sur l'enlèvement de la petite Mia, la justice souhaite désormais interroger un Français qui vit en Malaisie. Un mandat d'arrêt international vient d'être lancé
à son encontre. Les éboueurs, les chauffeurs de bus, mais aussi les caissières, les agents de pompes funèbres, la liste des métiers prioritaires à la vaccination s'élargit. Les partenaires sociaux sont en train de la finaliser, cette liste. Et puis, on vous en parlait dans le journal, la mort du président tchadien Idriss Déby Itno. Il est mort aujourd'hui des suites de blessures reçues au front. Il était à la tête du pays depuis plus de 30 ans. Les auditeurs